Nous arrivons à la fin de la phrase. Hein. C'est l'avant-dernier, pas mot mais expression, la communion. Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que votre repos s'est bien passé cette nuit et que nous allons pouvoir parler de communion. Et de communion, cela signifie de fraternité. Et si je vous demande si vous avez bien dormi, c'est parce qu'en général, quand on a quelque chose contre un frère ou une sœur, les nuits sont parfois agitées. Alors, la communion, parce que la communion, même pendant la messe, pourquoi je l'associe à la fraternité? La communion pendant la messe, ce n'est pas le moment où l'on reçoit le corps du Christ. C'est cela, mais c'est la fin de la communion, ça. Le début de la communion, si vous regardez n'importe quel missel romain qui, vous savez, ce missel romain, ce gros livre rouge là sur l'autel, qui permet de traverser l'ensemble de la messe hein, avec l'ensemble des formules, eh bien la communion commence au Notre Père. C'est là que commence la communion, au Notre Père. Cette prière du Notre Père qui, bien évidemment, quand on le dit, fait de nous des fils et des filles de ce Père, et par extension, des frères et des sœurs. Donc, la communion par la porte de la fraternité. Quelles images de fraternité avons-nous? J'imagine peut-être, sans doute même, que parmi nous, beaucoup ont des frères et sœurs. Peut-être beaucoup de frères et sœurs. C'est pas la même chose quand on est l'aîné. C'est pas la même chose quand on est le petit dernier. C'est pas la même chose quand on est en plein milieu. Et les relations entre frères et sœurs s'en ressentent un peu. Nous allons passer, non pas au prisme des fratries, de nos familles, mais de celles de la Bible. Et nous verrons que parmi quelques-unes des fratries de la Bible, moins dans l'Ancien Testament, peut-être, sans aller nécessairement jusque-là, parce que ça se passe jamais bien, en fait. En tout cas, il y a toujours des tensions. La Bible est pleine d'histoires, de fratries, mais des fratries impossibles, des haines tenaces et meurtrières. D'ailleurs, tout ne commence-t-il pas par la violence de Caïn face à son jeune frère? Avant d'en arriver à la prédication de Jésus, qui dit « Vous êtes tous frères », il aura fallu aux hommes et aux femmes de l'Ancien Testament un long, très très long chemin d'apprentissage. Et c'est bien le Christ qui établira cette fraternité réelle. C'est bien lui qui nous donne un seul Père, le sien. C'est bien lui qui, en s'identifiant au plus petit des frères auxquels on est venu ou pas en aide, nous donne la consigne d'être au service de tous. Mais pour l'instant, nous en sommes à l'Ancien Testament. Alors l'Ancien Testament, c'est pas simplement une histoire, une somme d'histoires du passé qui ne nous concernerait pas, puisque nous, bien sûr, nous sommes tous des filles du Nouveau Testament, des fils et des filles du Nouveau Testament, on a rencontré Jésus. L'Ancien Testament, c'est notre histoire. C'est notre histoire non évangélisée. C'est notre histoire qui a encore besoin, et sans doute besoin, de la présence de l'Évangile pour être, pour en prendre le sens, du sens, et être transformé, être tourné, être converti, être traversé par la présence de l'Évangile. N'allons pas trop vite. Ne pensons pas que l'Ancien Testament, c'est l'histoire des autres et du passé, avec toutes ces violences. Vous savez, mon père, oh là là, oh là là, heureusement qu'on a Jésus. Non mais tu rigoles. La violence, elle traverse notre monde, sans aller jusqu'à notre monde, elle traverse notre cœur. Oh là là, ces psaumes, vous savez, il y a des psaumes où on dit « Tu briseras leur tête contre les rochers et t'en garderas encore pour leurs enfants. Oh, » c'est quand même très très violent. Non mais sérieusement, qui n'a jamais pensé, ne serait-ce qu'une seule fois, je vais la tuer, celle-là? Au moins en pensée. J'espère que vous ne l'avez pas fait. Mais en pensée, oui. Des colères froides, oui. Des veines qui se gonflent sur les fronts, oui. La fraternité, impossible fraternité. Être frère et sœur ne va pas de soi. Des rivalités, des meurtres, des usurpations d'identité, les premières fratries bibliques ne sont pas tendres. Que de chemin faudra-t-il parcourir avant d'arriver à aimer ses ennemis et en frère des frères et sœurs? La fraternité de sang, dans l'Ancien Testament, bien loin d'être un idéal ou une valeur, apparaît plutôt comme une réalité subie. En un sens, elle est heureuse, et les passages sur le bonheur d'être frère et sœur, d'habiter ensemble et tous ensemble, combien c'est merveilleux, comme dans le psaume 133, ne manquent pas. Pourtant, si on la laisse suivre sa propre pente, cette fraternité conduit inévitablement à la jalousie, à l'envie et au désir de meurtre. Tout commence par un meurtre. Pour parler de fraternité, on commence par parler de meurtre. Pour le comprendre, il faut en passer par le récit évidemment fondateur de Caïn et Abel au début de la Genèse. Non pas parce que ce récit remonterait à d'improbables origines historiques, mais parce qu'il domine sous la forme du mythe toute la réflexion des auteurs de la Bible sur la fraternité. Réflexion bien dérangeante pour nos mentalités, souvent pétries de bons sentiments. En effet, la fraternité de sang n'y est pas présentée comme une bénédiction, mais comme un problème. Comme si la fraternité, inexorablement, menait au fratricide. C'est sans doute à cette lumière qu'il faut d'ailleurs comprendre l'étonnante attitude de Yahvé et du Seigneur. Après le meurtre d'Abel, il ne condamne pas Caïn. Il ne le châtie pas. Il lui pose une question. Où est ton frère, Abel? Puis, après avoir reçu la réponse équivoque, qui est à la fois un déni et une sorte d'accusation, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Le Seigneur reprend comme s'il n'avait pas entendu. Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Genèse 4, verset 9-10. Le dialogue du Seigneur et de Caïn n'a rien à voir avec l'image terrifiante et culpabilisante que nous offre Victor Hugo dans La Légende des siècles, sous le titre La conscience, avec l'image de cet œil accusateur et omniprésent qui poursuit Caïn jusque dans la tombe. Non. L'errance qui frappe Caïn n'est pas une punition. Elle est la conséquence inévitable de son crime. Le sol, d'où tout homme est tiré, représente sa racine physique, biologique. Exécuter son frère de sang revient à nier ses racines, à se couper de soi-même et donc à se condamner à l'errance intime. Lorsque le Seigneur, à la demande de Caïn, met un signe sur lui pour le protéger, il s'attache à lui, se lie à lui. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit là d'une toute première alliance de Dieu et de l'homme. Pourtant, avant le meurtre, le Seigneur avait averti Caïn: si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte, une bête tapie et que tu dois dominer? C'est le verset 7 du quatrième chapitre de la Genèse. L'avertissement n'a pas été entendu par Caïn. On en trouve cependant l'écho un peu plus loin dans l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. La terre sur laquelle Abraham et Lot sont installés ne suffit pas pour les deux familles. Des querelles s'élèvent entre les bergers. Abraham dit alors à Lot: qu'il n'y ait pas de discorde entre toi et moi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, J'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. Genèse 12. Gérer la fraternité, c'est d'abord la reconnaître. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Mais aussi séparer les domaines. S'éloigner pour ne pas donner prise à la bête de la discorde. Au passage, nous pouvons reconnaître qu'il y a là, pour nous, une leçon de réalisme. Nous sommes bien plus jaloux et jalouses et fragiles que nous ne l'imaginons. La distance peut parfois être une simple mesure de prudence. Le frère, c'est Dieu. L'histoire de Jacob et de son frère jumeau Ésaü, tout comme celle de Joseph et de ses frères, est construite sur le même présupposé. La fraternité de sang conduit à la rivalité, au désir de meurtre, au vol. S'éloigner, se séparer est la toute première sagesse. Et l'inévitable confrontation ne peut s'achever dans la réconciliation qu'en passant par l'épreuve. Ainsi Jacob, après avoir combattu toute la nuit avec l'ange, la veille de la rencontre avec son frère, peut-il dire à celui-ci « J'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu. » Genèse 33, verset 10. Le visage du frère et le visage de Dieu ne font qu'un. De la même manière, Joseph, lorsqu'il se fait reconnaître à ses frères, leur dit « Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé avant vous. » Cette finale, qui adoucit jusqu'à l'euphémisme la violence des frères, donne la clé de toute l'histoire. Le mal a été changé en bien par la vertu de Joseph, mais aussi grâce à la puissance transformante de l'action du Seigneur. Fraternité comme projet, le projet de Dieu. Toujours par rapport au texte de Joseph à la fin d'Exode, de la Genèse, pardon, ce récit complexe des 12 fils de Jacob a été construit pour relier les tribus d'Israël à un ancêtre commun et à les installer dans une relation fraternelle. Pourtant, cette fin de la Genèse montre déjà que la fraternité, réalité biologique, est aussi et avant tout un don de Dieu. À partir du récit de l'Exode, la Bible renvoie sans cesse à cette action de Dieu qui toujours précède son peuple et fonde son existence. Les différents codes de l'Alliance que l'on trouve dans les livres qui suivent commencent souvent par ce rappel. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ou plus simplement, je suis le Seigneur. Ainsi, le livre du Lévitique commande « Vous ne commettrez pas d'injustice dans les sentences. Tu ne feras pas de faveur au petit, ni ne te laisseras éblouir par le grand. C'est selon la justice que tu jugeras ton compatriote. » Tu n'iras pas diffamer les tiens, tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu ne te vengeras pas et ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, les versets 15 à 18. Ce passage montre bien comment les différentes nations, frères, compatriotes, tiens, prochains, se rejoignent et convergent dans un projet à la fois éthique et politique. Projet éthique qui requiert la justice. On sait avec quelle minutie la loi cherche à éviter les différences sociales trop grandes, voire même à les réduire. Notamment par l'instauration du jubilé, qui permet tous les 50 ans de remettre à zéro les compteurs des dettes, de libérer ceux qui sont tombés en esclavage. Et puis, le projet fraternel qui exige la liberté et une certaine forme d'égalité. Projet politique. La fraternité est le ciment du peuple d'Israël. Elle s'étend, on l'a vu, à des personnes qui n'ont pas de lien direct entre elles, mais elle reste toujours au niveau du peuple élu. Cette extension de la fraternité repose sur deux piliers. Le premier est la plasticité du terme « frère », qui part du niveau strictement familial, puis clanique, pour aboutir aux 12 tribus. Le second est le don de la fraternité par Dieu même. La fraternité prend racine dans le lien de sang, mais n'a aucun avenir si elle ne s'appuie pas sur le don gratuit de Dieu qui désigne lui-même le frère comme Dieu, l'histoire de Jacob et de ce combat. Avec tout ce que cela entraîne, ne savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît? Oracle du Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, briser tous les jougs, partager ton pain avec la famille, héberger les pauvres sans abri, vêtir celui que tu vois nu et ne pas te dérober devant ton frère. Isaïe 58, les versets 6 à 7. Ce projet éthique, qui s'adresse d'abord aux siens, à son peuple, à soi, englobe peu à peu les étrangers, ceux hors du peuple. C'est dans le Deutéronome, chapitre 10. Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, tu étais un étranger. Au fur et à mesure que le monothéisme d'Israël s'affermit, l'alliance de Dieu se trouve proposée aux nations, comme on le voit chez les prophètes, particulièrement Isaïe, à partir du retour de l'exil. Et il y a là une grande nouveauté déconcertante pour Israël. En effet, le projet éthique passe désormais avant le projet politique. L'alliance ne se fait plus contre un ennemi commun, comme dans l'Exode, mais s'étend à tous. Faut-il alors considérer l'étranger comme un frère? L'Ancien Testament ne va pas jusque-là. Il faudra attendre la nouvelle alliance pour que le projet fraternité s'étende aux étrangers, aux païens et aux ennemis. Je le disais tout à l'heure, l'Ancien Testament, c'est toute notre histoire non encore évangélisée. C'est toutes les zones de notre existence qui n'ont pas encore rencontré la force de l'Évangile, l'amour de l'Évangile et ce que cela suppose. Chacune, chacun, nous savons, vous savez où vous en êtes. Aimer les siens au niveau nucléaire, la famille. Aimer ce que l'on a choisi, ce avec qui l'on vit. Alors, bien évidemment, dans la vie religieuse, on ne choisit pas exactement les sœurs avec qui, ou les frères avec qui on vit. Ça, c'est évident. Mais on choisit quand même la congrégation. Et a priori, on y reste parce qu'on s'y sent bien. En discutant avec beaucoup parmi vous, un certain nombre au moins, ce qui est un peu le fil d'or qui coud vos relations, C'est cette phrase, chez nous, il y a de la fraternité, je sens de la fraternité. Alors, peut-être à différents niveaux, hein. Peut-être certains se disent, eh ben, dis donc. Mais si, il y a quelque chose, une fraternité, en tout cas d'une relation simple et familiale, qui peut exister, un esprit de famille, c'est aussi des expressions qui sont chez vous, ça. Donc, il y a quelque chose, cette fraternité, qui est un combat, parce que si les sœurs sont des dons de Dieu, elles ne sont pas nécessairement des cadeaux. Ça marche aussi pour les frères. Si les sœurs et les frères sont des dons de Dieu, ce ne sont pas forcément des cadeaux. Ce n'est pas la phrase la plus importante de ce matin, hein. Mais en tout cas, c'est celle que l'on retient. Et ensuite, au-delà de cela, ça va être de s'ouvrir à ceux qui nous entourent aussi. D'abord au cœur de l'Église. Vous savez, on parle beaucoup dans l'Église de nos fameuses sensibilités aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Quand on dit sensibilité, ça veut dire toi, t'es pas comme moi. J'ai vraiment pas envie de te ressembler. Et tes machins que tu fais, là, tes petits trucs, tes dévotions, tes ceci, tes cela, écoute, on dit, soit c'est le temps ancien et il a rien compris, soit c'est les charismatiques et ils ont rien compris, soit c'est les progressistes et ils ont rien compris, soit c'est les je ne sais quoi et ils ont rien compris, mais moi j'ai compris. Je suis dans la bonne congrégation. Oui, oui. Là aussi, il y a du boulot, ne serait-ce qu'en interne et en église, pour s'ouvrir justement aussi à la différence des autres, sans aller forcément aller chercher immédiatement le musulman, le bouddhiste ou une autre religion, déjà dans l'église. Et Dieu sait que, en ce moment, ces relations sont crispées. Toutes les tensions qui tournent autour de la liturgie, en tout cas, sont la meilleure expression de voir combien tout cela est bien crispé. La liturgie, elle est souvent simplement le révélateur de nos angoisses, le révélateur de ce qui ne tourne pas rond dans nos têtes, le révélateur de nos peurs, le révélateur de nos obsessions et parfois de nos troubles psy. Encore une fois, je ne sais plus quand est-ce que je le disais, quand on parlait justement de ce regard que nous pouvions avoir sur le Père en fonction de nos pères biologiques, c'est pas un petit détail. Si notre Père était absent, si notre Père était écrasant, si notre Père nous terrorisait, ou si au contraire notre Père nous consolait, nous poussait en avant, c'est pas la même chose. On n'a pas le même point de départ. Et ce point de départ sur la vision que l'on a de Dieu, en général, se projette. Alors quand vous voyez parfois un prêtre ou une religieuse très attachée à son voile ou très attachée à sa chasuble violon et au latin, c'est peut-être simplement aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peurs qui sont derrière. Alors comment regarder quelqu'un qui a peur? En se moquant de lui? En voulant l'exclure et en disant « t'as rien compris ?» Ou bien en le considérant autrement? Je commençais par Caïn et Abel et cette histoire de Caïn et Abel. Pourquoi est-ce que les dons de Caïn n'ont pas été agréés par Dieu et ceux d'Abel l'ont été? Ah, il y a plein d'explications. L'explication, c'est parce que Caïn, il n'était pas gentil, il n'a pas donné sa de gaieté de cœur et parce que voilà. Le texte ne le dit pas. Parce qu'Abel, sans doute, il était beaucoup plus généreux, et parce que du coup, toute sa vie, il était gentil, parce qu'il passait son temps à prier Dieu, et parce que du coup, ses dons étaient préférés par Dieu. Le texte ne le dit pas. Ça, c'est nous qui inventons nos trucs et nos représentations. En revanche, ce que dit le texte, vous relirez le début, la mère de Caïn, c'est qui? C'est Ève. Alors, c'est pas Madame Ève, hein, c'est au contraire tout ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle dit au moment où Caïn arrive? À la naissance de Caïn, qu'est-ce que Ève dit? Redisez le texte de la Genèse. Je sais que vous l'avez lu encore hier soir, mais surtout n'hésitez pas à le relire encore plus souvent. En gros, Ève dit, voilà, ça, c'est mon fils. Un vrai fils. Il est vraiment bien celui-là. Et c'est Dieu qui me l'a donné. Super. Ça, c'est quelqu'un de bien. Et Abel, elle dit rien, du tout. Mais elle lui donne un prénom. Vous savez ce que ça veut dire, Abel, en hébreu? Ça veut dire la buée. La buée. Le rien du tout. La buée. C'est ça, Abel, ça veut dire de la buée. Comme de la buée quand vous faites sur une fenêtre. Le rien du tout. Alors vous comprenez pourquoi Dieu regarde plutôt le rien du tout? D'abord, pas parce que l'autre il n'est pas bien ou quoi que ce soit, mais parce que le rien du tout, justement, il est considéré comme rien du tout et que Dieu ne sait pas faire autre chose que de se pencher vers la misère de son peuple et vers le rien du tout. Mais il n'y a pas de différence. C'est pas une manière de dire, toi t'es mieux que l'autre. Ça, c'est l'autre qui a compris ça. Toute sa vie, on lui dit, c'est mon fils, c'est le meilleur. Toute sa vie, on lui fait croire ça, on lui dit ça, t'es formidable. Et quand un jour arrive, mon Dieu, on a préféré l'autre. On a préféré l'autre, celui, celle qui peut-être a moins de compétences que moi, est moins intelligent que moi. Ça vous rappelle des choses comme ça? Moi, j'aurais fait tellement mieux. Quand même, la nommer elle supérieure, mais quelle folie! Toute ressemblance avec des scènes ayant existé, ou ayant existé, sont bien sûr évidemment fortuites. Non, mais voilà. Et c'est toujours le même jeu de Caïn et d'Abel. Alors que peut-être si on s'était dit, bon, peut-être que cette sœur-là, il ne s'agit pas non plus d'être condescendant en disant, oui, évidemment, si elle a été choisie, c'est qu'elle est bête. Donc forcément, il faut que je la considère comme telle, parce que voilà. Il s'agit pas d'être condescendant non plus, mais il s'agit simplement de tourner sa jalousie ou ses réflexes peut-être que l'on peut avoir quand on se sent menacé, pas respecté, quand on nous dit on nous aime pas, on préfère l'autre, etc. Des trucs qui remontent à très très profond, mais qui sont toujours là et qui remontent, qu'on le veuille ou non, parfois comme des volcans. Eh bien, de se dire bon, ok, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que cette décision vraiment m'entame? Est-ce que je ne suis pas reconnu? Et quand je regarde bien les choses, est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses où on me reconnaît ailleurs? Est-ce que mon premier réflexe est d'abord de vouloir dire moi d'abord, moi d'abord, moi devant, cette fameuse place dont on parle depuis 3 jours déjà? Ou bien est-ce que il y a de la place pour d'autres aussi? Le drame de Caïn, et Caïn n'a pas été jugé, c'est ce que je disais au départ, n'a pas été maudit ou je ne sais quoi. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pour prendre conscience de ce qui s'est passé. Quelques questions. Je vais vous distribuer les feuilles du jour. Et encore une fois, ces jalousies que l'on expérimente sont tout à fait normales. C'est tout à fait normal. Mais la manière dont on va les gérer, c'est de savoir à ce moment-là si on est encore au stade de l'Ancien Testament ou si on est passé effectivement au stade de l'Évangile. Est-ce qu'on est encore au stade de ben, je te tue? Ou pas forcément physiquement, hein, ça peut être aussi symboliquement que l'on peut tuer quelqu'un. Tu n'existes plus, je t'efface. Ou bien, est-ce qu'on est dans quelque chose de l'Évangile? Encore une fois, il ne s'agit pas, au nom de l'Évangile, de tout accepter sans voir qu'il peut y avoir des injustices aussi qui existent. L'Évangile, c'est pas non plus du chloroforme, hein, qui nous fait perdre complètement la notion du réel. C'est pas un anesthésiant. Mais c'est d'abord une manière de comprendre comment on réagit nous-mêmes et de dompter éventuellement nos réactions et de voir si elles sont justes, si elles sont justices, si elles sont ajustées ou si c'est simplement de la jalousie mal placée. Ça nous appartient. Alors, quelques questions pour ce matin. Quelles sont les rivalités et les jalousies que j'ai ressenties dans mes propres relations fraternelles? En réfléchissant à vos propres expériences, avez-vous rencontré des situations similaires? Avez-vous été jaloux de vos frères et sœurs? Avez-vous ressenti de la rivalité pour l'attention de vos parents? Comment puis-je gérer les conflits et les tensions dans mes relations fraternelles? Texte. de Caïn et d'Abel, et puis les autres textes aussi autour de ce que je viens de dire, hein, mais les textes bibliques en tout cas, proposent des solutions pour surmonter les défis de la fraternité. Avez-vous mis en place certaines de ces solutions dans vos propres relations? Avez-vous appris à vous séparer de vos frères et sœurs pour éviter les conflits? Ou est-ce que vous en rajoutez? Avez-vous trouvé des moyens de communiquer et de résoudre les différends de manière constructive? Comment puis-je élargir mon cercle de fraternité pour inclure ceux qui ne me ressemblent pas? Comment pouvez-vous appliquer cette évolution à votre vie? Êtes-vous ouvert à l'idée de considérer les étrangers comme des frères et sœurs? Comment pouvez-vous tisser des liens de fraternité avec des personnes d'horizons différents? Propose ce texte de la Genèse, chapitre 45, ce moment assez bouleversant. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria: Faites sortir tout le monde. Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères: Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays, et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Non. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire: Ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a élevé au rang de maître de toute l'Égypte. Rejoins-moi, ne t'arrête pas. Je vous souhaite une bonne matinée.